Nous sommes avec Arnaud Cuidet à Comic-Con. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes là pour discuter donc du jeu de rôle que vous avez créé et qui est disponible depuis 2 ans, Metal Adventures. Un petit mot sur la création, avant de parler après des extensions qui sont sorties et de la dernière qui est disponible depuis le mois de mai.
Eh bien donc, créer Metal Adventures, ça m'a pris environ 4 ans. Voilà, c'est parti un petit peu sur un coup de tête. En fait, ça fait plus de 10 ans que j'écris des jeux de rôle, mais ça a toujours été des projets collectifs menés avec des grosses équipes. Il y a 4 ans, un éditeur m'a offert la possibilité de créer mon propre jeu. Et alors pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai cherché l'idée, et j'ai vu Riddick Chronicles avec Vin Diesel. Et là, je me suis dit, je vais faire un jeu de science-fiction où il n'y aura pas que des pistolets laser, mais il y aura aussi un petit peu de magie et puis des trucs bizarres. Et puis après, j'ai recherché, et je me suis dit, je vais faire des pirates de l'espace, parce que les pirates de l'espace, c'est cool. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à jouer, et puis l'éditeur qui m'avait proposé de m'éditer, finalement, il a coulé, et puis donc du coup, j'ai recherché un autre éditeur, et j'ai trouvé les éditions du Matago, et puis le jeu leur a plu, et donc on a signé, et puis voilà, le jeu est sorti, et puis c'est super bien.
Comment ça se teste un jeu avant de le proposer à l'éditeur? Ça se teste pas tout seul, je suppose?
Alors j'ai la chance, comme je suis release depuis des années, j'ai mon petit groupe de joueurs, et j'ai la chance dans mon groupe de joueurs d'avoir une espèce de Rain Man du jeu de rôle. C'est-à-dire que vous savez, Rain Man dans le film, quand on fait tomber le paquet d'allumettes, il peut compter le paquet d'allumettes rien qu'en le regardant. Et ben moi j'ai un joueur, si on lui pose un bouquin de règles devant les yeux, au bout de 5 minutes il a trouvé la faille dans le système, il fait le personnage ultime que personne ne peut tuer. Et donc j'ai joué avec lui, puis avec tout mon groupe de joueurs, et puis ça a été très très dur, parce qu'il a, il a fait le personnage ultime impossible à tuer, voilà, donc il m'a beaucoup aidé à réécrire plein de règles, et puis voilà, on est en fait, dès le départ pour Metal Adventures, j'avais prévu une campagne officielle, comme on dit, donc El Barco del Sol, donc je leur ai fait jouer la campagne El Barco del Sol, que donc j'ai donc réécrit à la fin, parce que ça marchait pas grâce à mon Rain Man du jeu de rôle, et voilà, donc on a joué un an comme ça, après j'ai pris une autre équipe de joueurs qui avait un profil plus de joueurs débutants, on va dire, parce que pour pas que ce soit non plus trop technique et trop hermétique, donc j'ai refait jouer El Barco del Sol avec cette deuxième équipe, où là j'ai moins eu besoin de réécrire les règles, parce qu'ils étaient moins ténueux, on va dire, mais ça m'a permis de tester le jeu avec un système qui est à 90% le système qui a été publié. Et puis surtout de m'assurer que la campagne en termes de scénario et d'aventure elle fonctionnait. Et voilà, donc j'ai deux fois El Barco del Sol et après c'était bon.
Pirates de l'espace, ça fait rêver un petit peu tout le monde. Bah, déjà les pirates, alors je parle même pas de la grosse vague Pirates des Caraïbes, mais c'est vrai que dans toutes les interviews on vous fait, voilà, Albator, en plus vous avez le t-shirt aujourd'hui donc vous pourrez pas y couper. Pourquoi de l'espace? C'est des lectures, je pense à Trackmore par exemple, de Simon Green, où là il y a encore un roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Black Book Edition qui reprend ce système de space opéra avec des pirates.
Alors en fait, dans l'ordre chronologique, ça a d'abord été de l'espace et après ça a été les pirates. Voilà, l'idée de base c'était de faire un jeu de science-fiction et ensuite je me suis demandé, j'avais déjà créé l'univers avant de savoir qu'on y jouerait des pirates de l'espace, donc j'ai créé l'univers, j'ai mis sur papier l'ambiance que je voulais pour le jeu et après je me suis demandé, peut-être que j'aurais dû faire dans l'autre sens, mais après je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on joue dans cet univers qui a l'air si bien? Et en fait, alors pour être tout à fait honnête, ça va remonter une bonne dizaine d'années maintenant, j'avais vu un animé qui s'appelle Sol Bianca, avec un équipage de pirates de l'espace filles qui découvrent un super vaisseau spatial et qui ont des tas d'aventures de pirates de l'espace. Bon, à l'époque j'avais vu l'animé, c'était bien mais sans plus, et puis X années plus tard, quand je me suis mis à faire mon jeu, je me suis dit, ah mais oui, c'était vachement bien en fait Sol Bianca, et puis ah, c'est vrai, les pirates de l'espace, Jack Sparrow et tout machin, et voilà, mais ça a d'abord été de l'espace et ensuite les pirates.
Pourquoi avoir sorti la campagne en bonus, si je peux dire, avec chaque extension?
Alors, c'est une très bonne question. Je suis pas sûr d'avoir une réponse vraiment très rationnelle. Alors, en fait, si je crois que je peux faire une réponse rationnelle, c'est que la campagne fait voyager l'équipage des joueurs à travers toute la galaxie. Et en fait, chaque scénario de la campagne correspond à peu près à une région de la galaxie. Donc ça permettait de faire un supplément thématique avec la description d'une région de la galaxie, le scénario de la campagne qui va avec, et puis des règles supplémentaires qui permettent de mettre en scène les spécificités de cette région.
Donc campagne en 6 volumes, du coup. Le 4 est sorti au mois de mai, vous pouvez nous faire un petit focus dessus?
Alors oui, ça s'appelle donc Les Sciences et l'Infini. Donc en fait, c'est centré sur la nation qui s'appelle la Ligue des Planètes Libres, qui est une nation technologiquement très avancée, d'où le titre Les Sciences, et qui s'intéresse beaucoup à l'exploration spatiale. Alors sans rentrer dans les détails, elle a un territoire tout petit, donc elle a besoin de s'étendre pour faire face aux gros qui sont à côté. Donc voilà, elle lance plein d'expéditions spatiales à travers toute la galaxie. Et donc ça permettait aussi de faire des règles optionnelles sur justement le voyage spatial, comment ça se passe quand on saute vers des systèmes planétaires inconnus, et voyage de très longue durée, etc. Voilà, c'est un peu ambiance Star Trek, on va dire. Fondamentalement, c'est des gentils pacifistes qui explorent l'espace.
Et justement, dans l'espace, on voyage, mais de temps en temps, ça frite un peu. Parce qu'il faut de l'action dans un jeu de rôle. On sait bien que dans le groupe, on va dire, de Sword and Sorcery, c'est bien les magiciens, mais il y a toujours un barbare qui s'ennuie au fond de la table, il faut le réveiller de temps en temps.
En tant que meneur de jeu, je suis plutôt dur. Donc en fait, je pense que le jeu restitue un petit peu ça, et en fait, dans Metal Adventures, je peux rassurer le barbare, il ne s'ennuiera jamais. Le magicien non plus d'ailleurs, parce qu'en fait, alors bon, pour parler des archétypes de Metal Adventures, il y a effectivement plusieurs types de pirates de l'espace. Il y a des pirates qui sont plutôt scientifiques, on va dire, qui s'occupent du vaisseau spatial, etc. Il y en a qui sont plus physiques, il y en a qui sont plus sociaux. Mais en fait, c'est un jeu de science. Metal Adventures est un jeu de science-fiction low-tech, donc basse technologie. Donc en fait, les voyages spatiaux, notamment quand on va vers des systèmes perdus où il y a des trésors dedans, ils sont très dangereux. Donc en fait, tous les membres du groupe sont tout le temps sollicités, parce que à chaque instant, j'exagère un peu, mais à chaque jour, en tout cas, le vaisseau spatial peut rencontrer une pluie de météorites, une tempête cosmique, des spectres de l'infini, enfin voilà. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Personne s'ennuie vraiment, et même pendant quelque chose dont je suis, qui est arrivé un peu par hasard, mais dont je suis assez fier, c'est que le système de combat et comment dirais-je, la façon dont j'ai admirablement géré les compétences sociales font que les combats se terminent rarement par la destruction d'un des deux vaisseaux, mais plutôt par des pourparlers. Parce que en fait, personne n'a envie de se retrouver dans une épave de vaisseau spatial à 250 millions de kilomètres de la prochaine planète. Donc il y a toujours un moment, il y en a un qui fait pouce. Alors quand ça se passe bien pour les joueurs, c'est les PNJ qui font pouce, et puis sinon, c'est les joueurs. Et donc ça se finit souvent pour parler. Donc même les personnages sociaux sont sollicités pendant les combats pour jauger à quel moment il faut arrêter de tirer, commencer à parler. Une des remarques qu'on fait très souvent en démonstration, qui me fait très plaisir, c'est que contrairement à beaucoup de jeux de science-fiction où pendant les combats spatiaux, il y a que le pilote et le canonnier qui s'amusent, dans Metal Adventures, tout l'équipage, quel que soit le type de personnage qui joue, tous les joueurs sont sollicités et prennent du plaisir à jouer les scènes de combat ou même les scènes de voyage.
Si on peut dire deux types de combats, un à distance, vaisseau contre vaisseau, et puis après on passe à l'abordage.
C'est ça. Alors voilà, un des principes de Metal Adventures, c'est que les combats se finissent aussi souvent au pistolet laser qu'au sabre. Donc effectivement, dans la grande tradition des pirates, quand on sent que le vaisseau adverse est suffisamment endommagé pour plus poser trop de problèmes, on se met juste à côté, on ouvre son petit sas, on se met en scaphandre. Non, l'inverse. Faut d'abord mettre le scaphandre, ensuite ouvrir le sas, ça marche mieux comme ça. Et puis on saute dans le vide spatial pour passer à l'abordage. Alors pas avec le sabre entre les dents, parce que ça rentre pas dans le casque, mais sinon, ouais, c'est l'idée effectivement. Après, ça se finit dans les coursives, donc soit avec le sabre, le pistolet laser, ou alors les pourparlers.
Et pas d'aliens en fait, mais des mutants.
C'est ça. Alors là, c'est pareil, j'aurais pas vraiment de réponse rationnelle à offrir, mais alors si j'en ai une quasiment rationnelle, c'est que quand je joue à des jeux d'Heroic Fantasy, ou quand je lis des romans d'Heroic Fantasy, je préfère les univers où il n'y a pas d'elfes, de nains, etc. Je préfère plus les univers à la Morcock, comme Stormbringer, où voilà, il n'y a que des humains. Et donc, je pense que ça m'a conduit à faire un univers dépourvu de races aliens. Donc, effectivement, il n'y a que des mutants. Voilà, le principe, c'est de dire que dans l'univers de Metal Adventures, l'humanité a exterminé toutes les races aliens il y a très 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 longtemps dans le passé, et il reste juste, le patrimoine génétique des races aliens a plus ou moins survécu, et c'est mélangé avec le patrimoine génétique de l'humanité pour faire des mutants qui ont donc, alors c'est pas les X-Men, hein, ils ont pas de super pouvoirs, ils ont tous une sale tête et des quand même des pouvoirs mutants. Ils peuvent transformer leur peau en armure, un peu lire les pensées, et donc ça rajoute une petite touche de fantasy, d'héroïque fantasy presque dans le jeu.
Système basé sur des dés de 6 avec un truc qui m'a un petit peu interpellé, le système qui permet en quelque sorte de passer berserk.
Alors on dit pas berserk. On dit agressif, voire violent. Et non, alors en fait, ça s'appelle. Donc, la base du système, c'est qu'effectivement, on jette plein de dés. Voilà, des dés à 6 faces. Et tous les dés qui font. Alors, je résume, hein, mais tous les dés qui font 4 ou plus sont des succès. Et si on obtient autant de succès que la difficulté de l'action, on a réussi. Ça, c'est le principe de base. Après, effectivement, il y a certaines compétences du jeu, hein, pas toutes, certaines. Donc, typiquement, les compétences pour se battre, mais aussi pour piloter, puis même des compétences sociales, qui sont des compétences violentes. Et quand un personnage utilise une compétence violente, le joueur peut prendre des dés en plus. Donc ces dés, c'est des dés Metal Factor. L'ensemble du groupe en a 50 au début de la partie. Et à chaque fois qu'un joueur prend des dés de Metal Factor pour booster son jet, et ben après il les compte, ça lui fait plein de succès en plus, il est super content, et après il les donne au meneur de jeu qui du coup se fait une petite réserve à lui au fur et à mesure que les joueurs dépensent du Metal Factor, et après le meneur de jeu peut s'en servir pour les PNJ. Il fait pareil, quand un PNJ utilise une compétence violente, le MJ peut piocher dans sa réserve de Metal Factor pour avoir plus de dés achetés, et après ces dés là il les rend au joueur et on recommence.
Vous trouvez le juste équilibre? Mais est-ce que la balance va toujours du même côté?
Alors, un des grands principes de Metal Adventure, c'est que la vie est injuste. Donc, effectivement, le Metal Factor a plus tendance à aller des joueurs vers le MJ que l'inverse. Mais effectivement, c'est vraiment, il faut choisir le bon moment pour s'en servir. Donc, justement, mon super Redman du jeu de rôle, lui, il avait très vite compris comment il fallait servir du Metal Factor. Donc, ça m'a permis de les réécrire un petit peu les règles. Mais voilà, il faut jauger. Il y a des moments où c'est pas la peine, il y a des moments où c'est la peine. Et alors, c'est très rigolo La première partie d'un groupe de joueurs, en général, au début, ils veulent pas utiliser le Metal Factor, parce qu'ils disent, mais après, le MJ va en avoir plein, ça va être dur et tout, non, on n'y touche pas. Il y a toujours un moment où il y en a un qui craque, donc là, il prend plein de dés de Metal Factor, et puis une fois que la machine est lancée, on ne l'arrête plus, parce que la violence n'engendrant que la violence, quand les joueurs donnent du Metal Factor au MJ, le MJ s'en sert, donc du coup, c'est plus dur, donc les joueurs en ont plus besoin, donc ils en réutilisent, et puis voilà, la vie est injuste.
Vous continuez, vous, d'être meneur de jeu?
Alors, de toute façon, déjà, petit 1, je pense que c'est indispensable pour écrire des suppléments qui ont du sens. Et puis alors en plus, il m'arrivait un truc magique avec Metal Adventure, c'est que donc c'était pas le premier jeu de rôle que j'écrivais, même si les autres c'était collectif. Et à part une ou deux exceptions, tous les autres que j'écris, au bout de 2 ans, 3 ans, j'avais plus envie d'y jouer. Il faut dire que quand on passe un an et demi à écrire un jeu, et puis après à faire des parties de démonstration en salon, etc., il y a un moment où ça use tout simplement. Et alors Metal Adventure, c'est magique parce que ça ne s'arrête pas. Plus je joue, plus j'ai envie d'y jouer. Donc pour l'instant, je touche du bois, mais la machine s'est emballée, tout va bien. Donc oui, je continue à jouer. J'ai 2 groupes de joueurs, et puis en plus, comme je fais entre 1 et 2 conventions par mois, je fais des parties de démonstration aussi. Et en fait, dit comme ça, ça passe pour de la fanfaronnade, mais en fait, pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. Ce jeu me plaît beaucoup.
Votre équipe, pas favorite, mais qui est peut-être la plus simple à jouer, aussi bien pour un meneur qu'en tant que joueur, c'est 3 ? 6, 10 pour un équipage?
Alors le chiffre d'or c'est 4.
D'accord.
En dessous de 4, c'est compliqué pour manœuvrer le vaisseau spatial et être efficace. Pourquoi je parle tout le temps du vaisseau spatial? Parce que le vaisseau spatial c'est plus qu'un véhicule pour les pirates de l'espace, c'est leur maison. Parce que les pirates de l'espace par définition sont nomades, ils ont plus de chez eux, ils ont que leur vaisseau spatial. Donc c'est super important, il faut lui donner un petit nom, il y a des gens qui leur parlent et tout. Enfin voilà. Donc en dessous de 4, c'est compliqué pour manœuvrer le vaisseau spatial. Moi en général j'aime bien 6. Parce que déjà ce qui est rigolo avec les pirates de l'espace c'est qu'ils sont toujours plus ou moins en train de se chamailler, donc plus ils y sont et puis plus c'est rigolo. Au-dessus de 6, ça commence à devenir compliqué parce que ça génère des doublons par rapport aux archétypes, et puis quand il y a qu'un seul canon, il peut y avoir qu'un seul canonnier, et puis c'est un peu le bordel autour de la table, faut bien le dire. Mais je crois que je suis monté jusqu'à 8. Bon voilà, 8 avec des joueurs qui sont prêts à y mettre un petit peu du leur pour pas monopoliser le temps de parole, ça marche aussi.
Est-ce que vous organisez des sortes de tournois avec des gens qui viennent avec leurs propres personnages, qui ont été validés par un système, ou est-ce que vous faites confiance aux joueurs ?
Alors, on n'a pas un système de tournoi continu comme sur les jeux de cartes. En revanche, on fait une Coupe de France tous les ans. La première l'an dernier au mois de juillet. Là, on fait la deuxième exactement dans une semaine. Voilà, vendredi soir prochain, il y a la première ronde, si on peut dire, et samedi, il y a la deuxième ronde, si on peut dire. Voilà, donc alors les gens viennent pas avec leur propre personnage, ils jouent des pré-tirés, c'est des scénarios que j'ai fait moi, donc le principe, c'est que toutes les tables jouent la même aventure, et puis, alors bon, c'est pas comme un jeu de cartes non plus, hein. L'idée, c'est pas forcément de massacrer tous les autres, hein. Mais on regarde à la fin de la séance, on fait un débriefing avec les MJ, on regarde quels ont été les joueurs qui ont été le plus dans l'esprit du jeu, qui ont bien géré les paramètres techniques de l'aventure, qui ont été de bonne compagnie. Et ça nous permet de déterminer le champion ou la championne de France de Metal Adventures.
Ça se déroule où? Et est-ce qu'il y a encore des places pour s'inscrire?
Alors ça se déroule à Parthenay pendant le Festival ludique international de Parthenay, si je dis correctement, donc le FLIP. Voilà, donc alors le FLIP lui-même, il doit commencer le 7 ou 8 juillet, je crois, et puis il dure pendant 15 jours. La Coupe de France, donc c'est vendredi, samedi, puis dimanche, on fait le débriefing et la remise des lots. Et oui, oui, il y a encore des places. Il n'y a pas de problème, on peut encore s'inscrire. On peut s'inscrire sur le forum officiel de Metal Adventures, qui est celui du Matago, donc et sur le groupe de fans Facebook. Donc, de toute façon, il suffit de taper Metal Adventures dans Google et on tombe tout de suite sur le site officiel.
Matago a édité un roman, Cœur de Jade, qui était issu d'un jeu de rôle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ? Alors, soit vous en tant qu'auteur, ou donner le bébé à quelqu'un d'autre en donnant des consignes ?
Ah oui, non, moi, l'écrire moi, non, ça va pas être possible, parce que je suis un très très bon créateur de jeux de rôle, mais par contre, en tant qu'écrivain, je vois pas grand chose. Mais aussi, il y a des gens qui veulent écrire des romans Metal Adventures, tant que ça respecte l'univers, et puis qu'il invente pas une race alien qui massacre toutes les galaxies, moi, j'ai rien contre, au contraire. Alors, on en a discuté un petit peu avec Matago, mais bon, c'est, pour l'instant, il y a aucun projet qui a émergé. En revanche, il y a un jeu de cartes qui est en développement, un jeu de cartes pas à collectionner. Et il y a un jeu online aussi qui est en projet. Bon, c'est un peu plus lointain, mais le jeu de cartes, j'y ai joué plusieurs fois, ça tourne bien, c'est rigolo, c'est en route. Donc oui, il y aura d'autres choses Metal Adventures que le jeu de rôle.
Une musique en fond sur les parties, c'est obligatoire. Qu'est-ce que vous conseillez pour jouer à Metal Adventures ?
Alors j'en aurais pas une, j'en aurais une bonne dizaine. Ouais. Alors au début, je jouais beaucoup avec la BO de Cobra. L'anime issu de Byushi Terazawa. Je mets aussi pas mal de Conan le Barbare, bizarrement, parce que à chaque fois qu'on est, parce que moi j'aime bien mélanger un peu les genres, donc il y a souvent des planètes avec des temples aliens, voilà, des trésors, des fantômes, des machins, donc voilà, Conan ça marche bien. Et sinon Battlestar Galactica c'est pas mal non plus, et des fois je mets du Macross Plus. Voilà, bah oui, je suis trentenaire, alors j'ai, voilà. Parce que Macross Plus, il y avait des bonnes musiques pour les combats aériens, voilà, et pour les combats spatiaux, voilà, ces pistes-là le font bien. De toute façon, donc sur le fameux site officiel de Matago Metal Adventures, je mets en ligne, à chaque fois qu'il y a un supplément qui sort, alors avec plus ou moins, moi je le fais avec plus ou moins de retard, mais à chaque fois qu'il y a un supplément qui sort, je m'astreins à poster un article où je donne les musiques avec lesquelles j'ai joué les scénarios qui sont dedans. Donc quand je suis à l'heure, je le fais dans la semaine où ça sort, quand je suis en retard, je le fais un mois et demi plus tard, là pour le dernier je suis en retard, mais je finirai par le mettre, voilà, quasiment scène par scène, je donne les pistes que j'ai utilisées moi pour rythmer les aventures, parce qu'effectivement la musique ça compte.
Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie pour la prochaine extension ?
Alors, oui, qui à peu près théorique. Donc le cinquième volume de la campagne qui s'appelle Le Fer et le Sang et qui parle de l'Empire Galactique devrait sortir quelque part entre fin août et début septembre. Là, on est déjà en train de faire le sixième volume qui s'appellera La Belle et la Bête, qui du coup sortira plus probablement fin de l'année, fin novembre si on a de la chance, plutôt décembre si on a moins de chance.
Pour terminer nos interviews cette année, une question qui est une sorte de rêve impossible. Si on vous donnait la possibilité de collaborer avec un artiste ayant existé, quel que soit le domaine artistique, qui serait cet artiste et pour quel projet ?
Puisqu'il faut qu'il soit mort, le pauvre, je pense que ce serait Jack Kirby, qui est donc alors pour ceux qui connaissent un peu les comics, un très célèbre illustrateur de comics, qui est surnommé le père des comics aux États-Unis. Et voilà, moi je suis absolument fan de tout ce qu'il fait. Je trouve que ses bandes dessinées regorgent d'une énergie et d'une inventivité incroyable. Je serais prêt à faire tout ce qu'il... S'il était encore en vie, je serais prêt à faire tout ce qu'il veut pour travailler avec lui, parce que juste ce type était un véritable génie, quoi. Voilà, donc Jack, voilà. Si tu m'entends, je travaille avec toi.
Merci beaucoup. Un mot pour finir, quelque chose que vous souhaitez annoncer ou...
Oui, alors je peux donner rendez-vous aux joueurs du sud de la France. Je serai au Tisseur de Rêve, donc qui est à côté de Marseille. Ça c'est début août. Là, j'ai plus la date en tête, mais ça doit être le premier week-end d'août. Et 15 jours plus tard, je serai dans le Gers à RPGers. Voilà, c'est deux conventions très très sympathiques et je serais ravi de jouer avec des nouveaux gens là-bas. J'aurais même un nouveau, parce que je peux pas faire un scénario pour chaque convention. Donc l'année dernière, j'ai tourné un peu avec le même. Là, j'ai un nouveau scénario de convention. Donc ce sera l'occasion en plus de tester de nouvelles façons de jouer des pirates de l'espace, éventuellement de mourir parce que la vie est injuste.
Merci.
Merci.